tous, vous allez bien? Chaudement. C'est la canicule pour tout le monde. Je vous apprends rien, mais ça sera rigolo d'écouter ça le 29 septembre, qui faisait la canicule en ce moment et que tous ces faux prophètes se sont trompés. Amen.
Amen.
Seigneur Jésus veut nous éclairer, nous montrer la vérité et permettre que nous puissions véritablement te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Merci Jésus, que nous puissions nous débarrasser de toute cette poussière religieuse. Merci mon Seigneur. Amen.
Amen.
Pour ceux qui ne sont pas au courant, vous savez qu'il y a une grande mode en ce moment, c'est que des gens disent que Jésus revient nous chercher le 28 ou le 23, je ne sais plus, septembre, que c'est l'enlèvement. Eh bien, certaines personnes m'ont écrit, et pour me demander ce que j'en pensais, eh bien, j'en pense que je ne crois pas. Il peut venir n'importe quand, mais je ne crois pas ces choses-là. Ça va contre tout ce que j'ai appris de la part de gens sérieux dans l'Église de Jésus-Christ, parce qu'il y a quand même des gens sérieux dans l'Église de Jésus-Christ. Et ça va contre l'Écriture, et on ne peut pas donner de date. On peut tordre tant qu'on veut. Déjà, du temps de l'apôtre Paul, il y avait des gens qui tordaient, mais maintenant, ils sont vraiment passés maîtres pour tout ça. Et de toute façon, si Jésus revient le 28 septembre, tant mieux. Mais moi, j'espère qu'il revient avant. Pas vous? Quand on voit ce qui se passe à l'heure actuelle, on se dit qu'il vaut mieux qu'il revienne avant. Mais il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Amen. Voilà. Et nous ne serons pas surpris. Parce que ça fait suffisamment longtemps qu'on entend dire qu'il revient bientôt. Amen. Et quand on entend des gens qui disent des dates, il ferait mieux de se préparer. Se préparer, c'est tout autre chose. C'est-à-dire, c'est se mettre en règle avec la parole de Dieu qui est rétablie, puisque Jésus ne viendra qu'au temps du rétablissement de toutes choses. Et en ce moment, il n'y a rien qui est rétabli dans les églises. Pas grand chose du moins, à part qu'ils se roulent par terre, maintenant ils se sautent dessus, ils se marchent dessus, les pasteurs se font lécher les bottes. Non mais c'est incroyable ce qu'on voit. Lisons Exode chapitre 5 verset 20. Exode 5 20. Il est dit là: en sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent: que l'Éternel vous garde et qu'il juge. Vous nous avez... attendez, non, j'ai dû me tromper, c'est au verset 17 plus exactement. Pharaon répondit: vous êtes des paresseux, c'est pas ça non plus, c'est pas possible. J'ai regardé trop rapidement mes notes. Je suis dans Exode. Ah oui, pourtant c'est ça. C'est le passage où Pharaon dit... Vous allez le retrouver, hein. Excusez-moi, je fais vite et je me suis trompé de référence. C'est le passage où Pharaon dit, mais je qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Je ne connais point l'Éternel. Voilà. Alors c'est un petit concours, le premier qui répond. 5-2. Voilà, merci Dominique. Voilà, Pharaon répondit: qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Voilà. Comme ça. Il était impudent, il était arrogant. Et beaucoup de nos contemporains ignorent tout autant le Dieu de l'Ancien Testament que Pharaon l'ignorait. C'est ça quand même qui est terrible. Et ils s'imaginent que Dieu est un Dieu vengeur, un Dieu colérique, à la tête d'une religion inférieure qui détruit son peuple par le déluge et par toutes sortes de calamités. Voilà, c'est épouvantable. Comment peut-il s'agir du même Dieu que le Nouveau Testament nous révèle en Jésus-Christ, cet être d'amour qui est si merveilleux? Il faut comprendre que sous l'ancienne alliance, c'était différent. Et Dieu nous a débarrassés, a surtout débarrassé Israël de toute la race du serpent, des géants et tout ça. Mais ils ne veulent pas le savoir, ils veulent ignorer ces choses. Alors ils pensent que Dieu est cruel et qu'il tue tout le monde. Non, il se débarrasse de ceux qui ne sont pas les siens. Il y a un ennemi qui est venu, qui a semé son livret. Et quand vous écoutez Jésus, livret, c'est les fils du malin. Voilà. donc il y a les fils de Dieu et les fils du mal. Et à l'époque, Israël en était infesté, et voilà pourquoi Dieu a fait de l'ordre, n'est-ce pas, comme ça. Parce que ça n'avait rien à voir avec lui. Alors voilà, ils s'imaginent que Dieu est terrible, mais c'est invraisemblable, c'est incroyable. Ils ne connaissent pas vraiment Dieu. Certains évangéliques, qui sont mal instruits, pensent que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'était Dieu le Père du Nouveau Testament. Ah, c'est comme ça. Oui, vous posez la question à des évangéliques. Tiens, ils vont venir là ce week-end. Si ça vient, une discussion avec eux, posez-leur la question, vous verrez. Pourquoi toute cette confusion? Eh bien, pourquoi toute cette... Tous ces prophètes, certaines prophéties de la Nouvelle Alliance, pourquoi certains prophètes de la Nouvelle Alliance prophétisent comme les prophètes de l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire menaçant, condamnant, jugeant sans cesse. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour vous juger, je suis venu pour vous sauver. Alors, et c'est à la fin que Dieu jugera, pas maintenant. Et surtout condamné. Ah, c'est carrément l'hérésie. Alors, qui était le Dieu d'Adam? Qui était le Dieu d'Enoch, d'Abraham, d'Israël, de Moïse? Qui était ce Dieu? Alors, ce que je vais dire ici semblera paradoxal pour beaucoup d'évangéliques. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Voilà, c'est clair. C'est Jésus-Christ qui créa le monde, c'est écrit dans Colossiens 1, 15. N'est-ce pas? Il est le premier-né de toute la création. Et c'est lui qui a ensuite créé tout pour lui. C'est par lui que tout a été créé. Il n'y a rien qui a été créé sans lui. C'est lui qui a fait tout. Et finalement, il est venu sur la terre dans un corps de chair semblable à celle du péché, un corps de chair et de sang, comme je vous l'ai dit l'autre jour. Et cette grande vérité est la moins bien comprise de l'histoire du monde. Pourtant, c'est quelque chose qui est très important. Parce que Dieu dit que c'est la connaissance de Dieu qui nous sauve, hein, qui nous délivre. Pourtant, tout l'Ancien Testament est rempli de preuves de tout ça. D'abord, donc, il nous faut comprendre les noms et les titres de Dieu le Père et de son Fils. En général, il y a deux mots qui sont utilisés en hébreu dans l'Ancien Testament. C'est le mot Elohim et le mot Jéhovah. On prononce Jéhovah comme ça aujourd'hui parce qu'on ne sait pas comment il faut le prononcer. Certains disent Yahvé. Les savants ne sont pas d'accord sur la prononciation de Jéhovah ou Yahvé. Parce qu'en hébreu, on écrivait sans les voyelles. Ça s'écrivait donc, si vous voulez, en français, YHWH. Alors, c'est imprononçable. Et ce nom, Jéhovah, c'était le nom titre prémortel donné au premier-né de toute la création. Qu'est-ce qu'il signifie? En venant sur terre, Jésus est venu, il a dit, j'ai révélé le nom du Père. Et c'était le nom de Yeshua, puisque Esaïe a dit que le Fils qui nous est donné, on l'appellera Père éternel. Vous voyez, ils sont loin de comprendre ça. Yahvé ou Jéhovah, ça signifie celui qui existe par lui-même, ou ça signifie l'éternel. Donc, Jésus est aussi éternel que lui-même. Mais il est dans sa création sous la, entre guillemets, forme de Jéhovah. Et c'est pourquoi on peut voir Jéhovah se manifester, on l'appelle l'Éternel, les Juifs lui ont trouvé un autre nom parce qu'on peut pas, ils n'ont pas le droit de prononcer. Le nom de Jéhovah est tellement sacré, ils en ont inventé un autre, Adonai, n'est-ce pas? Et puis on voit Jésus quand il est dans la chair, quand il est homme et Dieu, il prie son Père qui est dans le ciel. Jésus est éternel, mais avant que l'éternel Jésus ne crée quoi que ce soit, il créa Jéhovah. Il créa Jéhovah. Le Dieu pour et dans la création. Quand Jésus se présente à Moïse, au buisson ardent, Moïse lui demande son nom. Et là, il lui a répondu qu'il s'appelle Je suis. Tu vas leur dire, je m'appelle Je suis, t'as parlé. Je suis m'envoie vers vous. En hébreu, excusez mon accent, ça se dit Eye, c'est-à-dire en français, ça s'écrit E-H-Y-E-H. Et ça signifie je suis. Il y a là un sens apparenté à Jéhovah, ou l'éternel, ou Yahvé, ou je suis celui par qui je suis, j'existe par moi-même, on ne m'a pas créé. Alors les Juifs, donc, considéraient ce nom comme tellement sacré qu'ils ne le prononçaient pas. Et ils ont commencé à lancer le mot Adonai. Mais Adonai, voilà, c'est pas vraiment le nom. Le nom, c'est Jésus. Maintenant, Jésus est venu nous révéler le nom du Père. Alors quand vous demandez aux chrétiens, mais il a révélé le nom du Père, c'est quoi le Père? C'est quoi le nom du Père? Ils ne savent pas. Et pourtant, Jésus dit que c'est quand on connaît Dieu, le Père, qu'on a la vie éternelle. Sans cette connaissance, on n'a pas. Ils ne savent même pas son nom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quel est le nom du Fils? Ah ben ça, ils savent tous. Jésus, le nom du Père. Ils ne savent pas. Le nom du Saint-Esprit, alors là, encore moins. Hein. Ils ne savent pas. Ils sont dans une ignorance crasse. C'est terrible. Alors, les traducteurs de beaucoup de Bibles, et en particulier la version King James, a adopté le mot Adonai par respect pour les coutumes juives. Là-dedans, dans la King James, c'est Adonai à peu près partout. Alors, il y a un mystère qui n'en est plus un pour nous, qui recevons la révélation du rétablissement. Le mot Elohim, ça signifie les dieux. Im, c'est pluriel. Alors, dans mes écoles, là où je suis allé, j'ai fait 3 écoles, eh bien, on me disait toujours, c'est un pluriel d'importance. Hein, voilà, un pluriel d'importance. Ce qui est important, on le met au pluriel. Oui, mais non. Les juifs et les chrétiens disent qu'il y a un seul Dieu, et ils ont raison. Mais on va lire quand même 1 Corinthiens 8, 4, 7. Et puis, il faudra que vous y réfléchissiez chez vous tranquillement. 1 Corinthiens 8, 4, 7. C'est Paul qui écrit, pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idoles dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Les idoles, bon, il y a des idoles si vous voulez, vous avez des statues, des machins, mais c'est rien. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, au pluriel, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire là? Il nous dit qu'il y a des êtres qui sont sur terre et dans les cieux, qui sont appelés des dieux, D-I-E-U-X au pluriel, il y en a plusieurs. Et il ajoute, et il y a réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, c'est vrai. Mais néanmoins, pour nous, il n'y en a qu'un seul, le Père, et de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et puis un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Alors, il ne s'arrête pas là, il continue en disant que cette connaissance n'est pas chez tous. Verset d'après, c'est ça. Cette connaissance n'est pas chez tous. Quelle connaissance? Eh bien, la connaissance qui concerne les dieux, les idoles et les lois qui ordonnent toutes ces choses. Question. Avez-vous plusieurs dieux? Réponse. Non. Nous n'avons qu'un seul Dieu, notre Père éternel. Et nous n'avons qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ. Paul dit, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Qui c'est ce « nous » Ben, ce n'est pas d'autres personnes que les personnes qui ont reçu cette lettre, la lettre aux Corinthiens, c'est-à-dire des chrétiens, des disciples, des gens qui vivaient dans l'église de Jésus-Christ de l'époque. C'est à eux qu'il écrit et il dit, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, pour nous, les chrétiens, il n'y a qu'un seul Dieu. Maintenant, quand nous lisons cette lettre, elle nous est aussi adressée, ça veut dire que pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. On sait bien qu'il y en a d'autres, mais ce n'est pas les nôtres. D'accord? Ce n'est pas les nôtres. Elohim, c'est les dieux au pluriel. Au commencement, les dieux créa les cieux et la terre. Et ça trouble beaucoup de monde. Il y a eu un conseil des dieux. Et puis, il y a un de ces dieux, le nôtre, qui a créé. En compagnie, certainement aussi, des autres, avec le conseil et tout. Et que dire de ce texte? Elohim dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous. Genèse 3, 22. Nous, c'est aussi un pluriel d'importance? Non, je ne pense pas. Quand les chrétiens disent, oui, c'est la Trinité. Non, c'est faux, la Trinité n'existe pas. C'est une hérésie. Inventée par le catholicisme pour... si vous ne croyez pas ça, vous êtes excommunié. Alors voilà. Ça date de... C'est en 300 et quelques que c'est devenu officiel. Daniel, lui, nous affirme que l'Antichrist s'élèvera, qu'il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Daniel 11, 36. Donc notre Dieu, il n'est pas seulement notre Dieu, mais il est le Dieu des dieux. Il y a d'autres dieux. Que veut dire Dieu ? Ça veut dire objet d'adoration. Il y a des gloires, il y a toutes sortes d'êtres, n'est-ce pas ? Avant que le Père ne crée le Fils par qui tout a été créé, il a été décidé que le Père, c'est-à-dire Jéhovah, Yahvé, Adonai, Jésus, hein, l'enfant qui vous est né, on l'appellera Père éternel. C'est très compliqué pour quelqu'un qui ne veut pas réfléchir, mais c'est très simple quand on veut bien se donner la peine d'ouvrir son esprit. Eh bien, il a décidé que Jésus serait notre Dieu à nous. Il a été décidé cela. Et il n'en existe réellement d'autres, mais ils ne sont pas nos dieux à nous. Nous ne les adorons pas, ils ne sont pas l'objet de notre adoration, nous ne les prions pas, nous espérons rien d'eux, nous ne les vénérons pas, mais nous ne nions pas leur existence puisque la Bible dit qu'ils existent. Même si ça dérange les petits esprits évangéliques. Alors il y a une autre confusion au sujet de la pluralité de Dieu. Elohim n'est pas trois, Père, Fils et Saint-Esprit, mais il est un. Il faut arrêter de dire qu'il est trois si la Bible dit qu'il est un. Ils sont un. Ça, c'est une drôle de phrase, c'est une drôle de grammaire. Mais là, on est en train de parler de Dieu, on n'est pas en train de parler d'une table avec des chaises ou que sais-je. On est en train de parler d'un être spirituel, infiniment bon, grand, digne de louange et de respect. Et s'il dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un, c'est pas simplement qu'ils ont la même idée, hein. Je suis désolé. Non, non, c'est pas qu'ils ont le même pouvoir. Non, 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 non. Ils sont un. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est pas trois personnes qui font un Dieu. Ça, encore, ils sont dans la confusion avec ça. Et puis, ils recopient toujours cette faute d'orthographe ou de grammaire. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom et au singulier, alors que normalement, ils devraient être au pluriel s'il y en a trois. Mais ils ne veulent pas, ils copient la faute tout le temps en disant le contraire de ce que cela est. Enfin, c'est invraisemblable, une confusion terrible. Pourquoi je vous dis tout ça ? Le nom-titre de Dieu signifie objet d'adoration. En fait, c'est un mot grec, c'est le mot Zeus, Dieu. C'est le mot Zeus en français, si vous voulez. Il est le Fils appelé Père éternel, selon la prophétie d'Ésaïe, notre Dieu à nous et notre Père à nous. L'existence d'autres dieux n'altère absolument pas ce fait. Rien de ce qui existe n'a été fait par ces autres dieux. Rien. Ces autres dieux ne sont pas les nôtres, nous n'avons qu'un seul Dieu et c'est par son nom que nous faisons toutes les choses, même que nous mangeons. Nous mangeons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous nous endormons, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous partons faire le travail, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est par le nom de Jésus-Christ que les malades sont guéris. C'est au nom de Jésus-Christ que nous faisons toutes choses. Faites toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que c'est le nom le plus élevé. Il n'y a pas un nom au-dessus. Il n'y a pas un nom au-dessus. Trouvez-moi un verset dans la Bible qui me dit qu'il y a le nom du Père est au-dessus du nom du Fils. Notre Dieu à nous est l'auteur et le commanditaire du plan du salut et du salut aussi de la création qui soupire en attendant la révélation de qui nous sommes. De qui nous sommes. Comment voulez-vous savoir qui nous sommes quand on ne sait déjà même pas qui est notre créateur et qu'on est dans une confusion épouvantable? Alors c'est évident que le reste est aussi confusion et n'importe quoi. Le Père existe et le Fils, c'est le Père qui agit dans la création. Ça, je vous le chante depuis des années. Le Père éternel, qui créa le premier-né de toute la création, a donné au Fils toute l'autorité paternelle d'organiser et de gouverner la terre et l'univers. Et Jésus le Fils, le Père éternel des fidèles, est notre créateur, il n'y en a pas d'autre. On n'a pas été créé par d'autres dieux que par lui. Notre Père, celui que Jésus-Christ, homme, appelait « mon Père », eh bien, c'est le Père des esprits. On trouve ça dans Hébreux 12, 9. De tous les esprits. De tous les esprits de cet univers. Mais il n'y a pas que cet univers. Pourquoi voulez-vous qu'il n'y ait que cet univers ? Vous dites que c'est déjà très très grand et très très vide. Vous n'en savez rien, vous ne savez rien. On ne sait rien, on ne sait pas. Quand on regarde toute cette immensité, il y a des dimensions qui nous échappent. Savez-vous qu'il y a des animaux qui ne voient pas certaines couleurs? Et pourquoi est-ce que nous verrions pourquoi est-ce que nous verrions la réalité? Peut-être que ce n'est pas vraiment ce qu'on voit là. Il y a des mondes, il y a d'autres choses, avec d'autres matières, d'autres énergies, sous d'autres fréquences. C'est immense. Il faut arrêter de se limiter. Il faut arrêter de se limiter. Donc, il est le créateur de tous les esprits de cet univers qui nous regarde, nous. Et la Bible, c'est un livre qui nous est adressé à nous, pas aux Martiens, s'il y en a. C'est le livre qui parle de notre salut à nous et qui nous raconte notre histoire à nous, de la relation que nous avons, nous, avec notre Dieu à nous. Et encore, il ne dit pas tout là-dedans. Alors, les Juifs, au temps de Jésus, ils n'ont pas reconnu leur Dieu. Pourquoi? Parce que les religieux avaient apostasié les Écritures et ils ne comprenaient plus leurs propres Écritures et puis ils enseignaient des tas de trucs bizarres. Et bien, c'est une des raisons qui fit qu'il y a eu des hommes et des femmes qui sont partis au désert, les Esséniens, et puis ils sont partis avec tous les livres, ils les ont cachés dans les grottes de la mer Morte, on les a retrouvés dans les années 40. Et puis Jean-Baptiste est sorti de là. Il y a des Esséniens, Jean-Baptiste. Ils sont sortis du mouvement religieux corrompu, idolâtre, apostasié. C'était du n'importe quoi. Et c'est le même problème aujourd'hui dans une grande partie de l'Église chrétienne. Les religieux ont apostasié les Écritures d'une façon... Et puis alors, vous savez, plus on répète un mensonge, plus il y a de chances pour que les gens y croient. Et là, j'ai encore entendu cette semaine, là, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu cette semaine que Dieu n'a jamais aimé les temples. Et c'est pourquoi il les a toujours détruits. C'est complètement faux. C'est Dieu qui a donné les plans à Moïse en lui disant « Il faut que tu fasses exactement selon le modèle que je te donne. » Et puis après, il le détruira parce qu'il n'aime pas. Mais non, il les a détruits, ces temples, parce que les religieux étaient corrompus. Pourquoi ils étaient corrompus? Parce qu'ils ne se donnaient pas la peine de connaître les Écritures. Ils ne cherchaient pas. Ils radotaient sur des fables, sur des machins, des idées, tout. Et puis, ils voulaient faire les malins. Ils connaissent. Là, j'étais chez des jésuites, il n'y a pas très, très longtemps, et il m'a dit, vous avez dû remarquer, parce qu'il savait que je suis pasteur, vous avez dû remarquer que je connais plus l'histoire des saints que la Sainte Bible. Je dis, oui, j'ai remarqué, vous devriez faire quand même attention à la Bible, c'est quand même plus sérieux. Il me dit, oui, vous avez raison. Mais ils connaissent toutes sortes de fables, ils aiment ça. Et aujourd'hui, c'est comme ça. Et puis alors même, j'entendais là ce pauvre monsieur qui disait que ça continue, Dieu n'aime toujours pas les temples, et en ce moment, il se sert des islamistes terroristes pour détruire les églises et tout. Alors nos pauvres frères et sœurs qui sont massacrés dans les pays là-bas et pour lesquels on prie, eh ben c'est Dieu qui envoie les islamistes pour faire les horreurs là-bas. Non mais, c'était effarant. Vous lirez Hébreux 8:5, c'est là qu'il est dit comment Dieu a dit à Moïse de faire le temple. Ils veulent enseigner, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Et ils devraient arrêter d'enseigner parce qu'ils conduisent les gens dans les ténèbres et ils seront jugés très sévèrement, bricolés comme ça. C'est des bricoleurs, des mauvais bricoleurs. Avec un mauvais esprit en plus, ils le font par esprit de contrariété. Mais bon, Jésus a dit que la vie éternelle, c'est de connaître le Père, lui seul, vrai Dieu, Jean 17:3. Mais ces gens qui vivaient à l'époque où Jésus est venu, ils ne l'ont pas reconnu parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils connaissaient ce que les religieux leur adotaient. Eh bien, c'est la même chose encore aujourd'hui. Et quand nous sommes à la veille où Jésus va revenir, ils ne vont pas le reconnaître. Ils ne le reconnaîtront pas et ils connaissent des bribes, des écritures, ils font des expériences et avec ces bribes d'écriture et leurs pauvres petites expériences mystiques, ils se font une image qui ressemble un petit peu à Dieu, mais ce n'est pas ça. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu est Jésus-Christ. Alors les pauvres juifs avaient leur Dieu avec eux, et ils ne le reconnaissaient pas. Les juifs du temps de Moïse, eux, ils savaient. que le rocher spirituel qui les suivait, c'était Jéhovah, Christ. Ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est Paul qui le dit dans 1 Corinthiens 10, 4. C'était Christ qui les suivait, ce rocher des âges qu'on chante. Alors, il y en a qui le chantent, simplement, mais sans comprendre ce que ça veut dire. Puis, il y en a d'autres qui font des références avec ce qui est écrit dans la Bible. Ce cantique merveilleux était composé par un pasteur qui connaissait les Écritures. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Eux avaient perdu la connaissance de leur Dieu, ces pauvres juifs de l'époque. Et aujourd'hui, dans l'Église, c'est à peu près la même chose. Eux attendaient avec impatience la venue de leur Dieu. Vraiment. Et puis les juifs aujourd'hui, ils attendent la venue, ils attendent impatiemment la venue du Messie. Et quand l'Antichrist va se présenter, ils vont croire que c'est le Christ. Et puis les chrétiens vont dans la confusion, ils verront les miracles, ils diront « Ah ben voilà, c'est merveilleux, et puis il est tellement gentil, et puis il arrange tout, il fait de l'humanitaire, c'est merveilleux, il a supprimé la faim dans le monde, il n'y a plus de malades dans les hôpitaux, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. » Et ils vont croire que c'est Dieu. Pourtant, ils étaient monothéistes, n'est-ce pas? Mais ils n'avaient aucune notion d'un fils de Dieu. Et pourtant, dans l'Ancien Testament, il est tout le temps annoncé, le fils de Dieu. Et Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, avait appris que son fils, Jean-Baptiste, marcherait devant le Seigneur, c'est-à-dire devant Jéhovah. Et qu'il préparerait au Seigneur un peuple bien disposé, c'est-à-dire à Jéhovah. Luc 1, 16, 17. Mais oui, il en avait certainement parlé à ses copains prêtres, là-bas dans le temple. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas cru. La tradition, n'est-ce pas? La tradition. Alors quand quelque chose de nouveau arrive, alors il y en a qui sont un peu ébranlés, ils disent « Ah ouais, c'est génial », puis après, ils retombent dans la tradition, c'est toujours plus facile et confortable. Mais c'est faux. Et les anges, ils avaient été avertis, les bergers, ils avaient été avertis par les anges que l'enfant qui était né était le Seigneur. Ça veut dire, c'est le mot pour Dieu dans l'Ancien Testament. Luc 2, 11. Donc, il y avait eu des avertissements que c'était Dieu, ce gamin. Non, mais... Mais ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Moi, je les vois quand... Enfin, maintenant, ça va, on est au salon, on est là. Mais quand on était à la chapelle, je ne veux pas donner des noms, je suis méchant, mais je suis pas méchant, mais... Je vous garantis, il y en a qui dormaient tout le temps. Mais tout le temps. Il venait, il chantonnait et il dormait. Voilà. C'est eux, là. Ils n'écoutaient rien. Ils n'écoutaient rien. Alors, cette confusion est existante à notre époque et beaucoup croiront que l'Antichrist, ça sera le Christ. Et il y aura un simulacre d'enlèvement, il va y avoir des trucs qui vont se produire, que les chrétiens vont être complètement dans la confusion, par manque de connaissances, par la faute d'enseignants de pacotille, qui sévissent de plus en plus dans ce monde, tout ça va arriver. Alors que Dieu ait pitié, et que les prédestinés se réveillent, se repentent, reviennent à Dieu, et marchent dans les voies de la véritable Église, selon Actes 2, 4, tel que cela a été rétabli, et marchent comme des brebis dociles au lieu de se prendre pour des gens spéciaux et des enseignants. C'est un appel que je fais. Repentez-vous. Repentez-vous. Et puis nous, veillons afin de ne pas tomber, parce que la Bible dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. On ne peut pas les juger. On peut les juger, oui, on peut dire ils sont tombés, mais on ne peut pas les condamner. On peut dire ils peuvent se repentir. Alors qu'eux, ils disent que notre sentence a été prononcée, que nous mourrons avant la fin de l'été. On verra bien. On verra bien. Seigneur Jésus, je te prie vraiment que tu éclaires l'esprit des gens, de ceux qui t'appartiennent, et qu'ils se rendent compte dans quel état de confusion se trouve l'Église maintenant, et qu'ils arrêtent d'aimer cette fausse Église, et qu'ils se mettent à t'aimer, toi, et à devenir des disciples dociles qui te suivent, toi. Qui suivent ta parole dans la simplicité, dans l'amour, dans la paix. Merci Seigneur Jésus de ce que tu nous bénis ce soir encore et que tu rassures nos cœurs. C'est vrai, la vie éternelle, c'est que nous te connaissions, toi, le seul vrai Dieu. Et tu es notre seul vrai Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Oui, nous savons que, comme dit Paul néanmoins, mais pour nous, tu es le seul vrai Dieu. Amen. Amen.